Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Julie Devaux.
Déforestation, OGM, culture intensive, le monde selon Monsanto, dérèglements hormonaux ou encore fertilité, voilà ce qu'évoque le soja lorsqu'il est abordé. Cultivé depuis plus de 2000 ans en Asie, sa consommation est toujours aussi controversée. Alors comment différencier les deux ? Le soja destiné à l'élevage est-il le même que celui proposé aux consommateurs ? Est-il réellement l'un des principaux responsables de la déforestation amazonienne ? Le soja cultivé en Amérique latine est-il aussi important sur les autres continents ? Autant de questions que Émile Chenet, membre de l'Académie de l'agriculture, a bien voulu répondre au micro de Canal Académie. Émile Chenet, bonjour.
Bonjour.
Le soja est une légumineuse que vous connaissez bien, puisque vous l'avez étudiée depuis plusieurs années. Votre domaine d'expertise est l'organisation de la filière des oléagineux, la transformation industrielle des oléagineux et des huiles végétales, le biodiesel et les oléagineux dans les pays d'Europe centrale et orientale. Alors la première question que les auditeurs se posent, le soja est-il OGM ou pas ? OGM, ça veut dire quoi ? Est-ce dangereux pour la santé ? Est-ce le même que celui proposé aux consommateurs ?
Alors, le soja est dans le monde maintenant très majoritairement OGM. J'ai quelques chiffres sur la production totale de soja dans le monde en 2007 et 2008. Le soja, en 2009, était à 91% du soja OGM aux États-Unis, à 98% en Argentine en 2007, et 64% au Brésil en 2007 également, mais je pense qu'il a augmenté depuis en proportion.
Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire OGM ?
OGM veut dire qu'on a transformé les variétés par une technique nouvelle de biotechnologie qui consiste à aller chercher un gène extérieur à la plante et à le greffer sur son patrimoine génétique, sur ses ADN. Donc on a transformé ces sojas. Mais pour un caractère particulier, c'est celui de résister aux herbicides totaux. Et les sojas OGM qui sont produits dans le monde aujourd'hui, c'est des sojas qui résistent au Roundup, que tout le monde connaît. C'est un herbicide qui détruit toute la végétation. On a produit un soja qui résiste à cet herbicide. Ça permet de le semer, de le laisser pousser, d'appliquer le Roundup, et le soja est propre.
Bah justement, le soja OGM a été introduit pour la toute première fois en Argentine par la multinationale américaine Monsanto, donc avec le très célèbre Roundup Ready dont vous venez de parler. Il a permis dans un premier temps une croissance économique plaçant le soja en tête de la culture du pays. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec le Roundup ?
Le soja résistant au Roundup est maintenant, on peut dire, presque généralisé dans le monde, en particulier aux États-Unis, en Argentine et au Brésil. Et c'est ce soja-là, ce sont ces pays-là qui nous approvisionnent pour nos élevages.
Ça veut dire que le Roundup est partout ?
Mais il est appliqué sur les cultures, en tout cas. Il n'est pas dans la plante. Hein.
D'accord, oui.
Il est appliqué.
Alors, ce soja transgénique est donc destiné à qui et pourquoi ?
Alors, d'abord, il n'y a pas lieu de faire de distinction soja transgénique ou non, puisqu'il existe encore une petite proportion de soja non transgénique. Il faut revenir à notre consommation de viande, si vous permettez. En fait, tout vient du niveau de notre consommation de viande dans les pays développés. Pour schématiser les questions, la moyenne mondiale de consommation de viande est aux alentours de 43, on va dire pour simplifier, 43 kilos de viande par tête, par habitant et par an. C'est la moyenne mondiale. Là-dessus, aux États-Unis ou en France ou en Europe, on est à peu près à 100 kilos. La Chine n'est pas si loin de nous, elle est à 63 kilos avec des populations immenses. Mais l'Inde est bien inférieure, probablement par des habitudes très différentes, notamment le végétarisme dans ce pays, est à 15 kilos seulement. Et des pays comme les pays d'Afrique subsaharienne qui aspirent à manger plus de viande ne sont qu'à 10 à 12 kilos. Le Sénégal est à 12 kilos de viande par tête et par an. Donc en fait, tout vient de ces écarts considérables entre la consommation de viande des pays développés et des pays en voie de développement.
Alors justement, pourquoi l'Europe a-t-elle remplacé les farines animales destinées à l'élevage par du tourteau de soja ?
Non, alors dans ce que vous dites, ce n'est pas exact. Ce n'est pas les farines animales qui alimentaient en protéines les élevages. C'était un complément qui a été interdit depuis. En fait, progressivement, l'alimentation animale s'est accrue, est née dans les années 60. Mais pour alimenter de nouveaux types de viandes qui sont devenus très abondants, les viandes de porc et les viandes de volaille. Avant, on mangeait beaucoup de viande rouge, ou majoritairement, on mangeait des viandes de volaille uniquement de la ferme, si on se reporte 100 ans en arrière. Ce qui est apparu, c'est des élevages intensifs de porc et de volaille qui appellent à des aliments composés et qui font appel aux sources de protéines, qu'elles viennent d'Europe, des pays producteurs, de volaille ou de porc, ou qu'elles viennent d'ailleurs. Et ce qui est apparu dans ces 40 dernières années, c'est que progressivement, initialement, c'était les États-Unis qui produisaient ce complément protéique pour nos aliments du bétail. Et progressivement, c'est le Brésil et l'Argentine qui ont pris le relais. Et maintenant, majoritairement, les compléments protéiques qui sont utilisés, notamment en Europe occidentale et en France, sont du soja qui provient du Brésil et de l'Argentine.
Alors donc, le tourteau de soja est utilisé essentiellement pour sa quantité de protéines ?
Pas seulement. Pourquoi le soja ? Pourquoi ce type d'aliment a eu tellement de succès ? Non seulement par sa caractéristique de complément protéines, bien sûr, il a une teneur en protéines de 45 à presque 50% de protéines, alors que pour une ration d'animaux, il faut environ 20% de protéines. Donc on utilise des céréales qui ont environ 10%, on les complète par du soja qui amène, lui, 45 à 50%. Mais il a beaucoup de succès pour une autre caractéristique qui est peu connue, c'est que sa valeur énergétique pour l'animal est équivalente à celle du maïs. Donc c'est très énergétique. Ces deux caractéristiques ont fait son succès.
Mais le coût est moins cher par rapport au maïs ?
De toute façon, les fabricants d'aliments du bétail comparent, mais je dirais jour après jour, la compétitivité des matières premières qui lui sont offertes sur le marché. Et ce qui rentre, c'est la marchandise ou le composant qui présente le meilleur rapport entre les composants protéines, valeur énergétique et le prix qui est offert.
Alors, dites-moi, est-ce qu'on cultive le tourteau de soja en Europe ?
Alors, le soja, on cultive le soja. Alors, on le cultive extrêmement peu. Si vous voulez, on le cultive extrêmement peu. Des expériences ont été faites en France, en Italie, expérience à laquelle j'ai moi-même participé. Mais dans le contexte européen et en termes de compétitivité de la culture, c'est-à-dire performance technique et économique de la culture par rapport au blé, par exemple, ou au maïs, le soja est nettement derrière. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de tourteaux, de matières riches en protéines, de tourteaux, d'oléagineux notamment, il n'y a plus de frontières. Depuis 1962, c'est une concession qui a été faite par l'Union européenne et la France, donc avec l'Union européenne, pour indiquer que les graines oléagineuses et les tourteaux d'oléagineux pouvaient circuler dans tous les pays signataires de l'OMC sans droit de douane. Donc pour les matières premières, compléments de protéines, il n'y a plus de frontières. Donc c'est la compétitivité intrinsèque des différentes cultures qui fait le prix et qui fait leur entrée sur les marchés.
Alors je voulais juste savoir la différence entre les farines animales et le tourteau de soja. Pourquoi est-ce qu'on va plus utiliser
les farines animales étaient une petite partie, c'était un sous-produit de la destruction des animaux, de réforme des animaux morts. Donc ça a disparu pour des questions sanitaires que vous connaissez, ce n'est pas l'objet de cette émission. Maintenant, on n'en parle plus. C'était des compléments aussi très riches en protéines. Maintenant, ça a disparu, mais en fait, ce n'est pas la source majeure de compléments en protéines des farines animales. Le complément majeur, c'est les tourteaux d'oléagineux. Donc, au premier rang desquels le tourteau de soja, mais aussi les tourteaux des oléagineux européens, tourteau de colza et tourteau de tournesol, qui sont en compétition.
Et rappelez-nous les principaux composants des aliments destinés au bétail.
Alors, des céréales, à 80% essentiellement, blé et maïs, et en complément, donc environ 20%, plus ou moins 20%, des tourteaux d'oléagineux, soja, ou tourteaux de colza, ou tourteaux de tournesol.
Rappelez-moi, vous m'aviez dit, quel est le niveau moyen de consommation de viande dans l'Union européenne aujourd'hui ?
C'est aux environ 100 kilos. 100 kilos de viande par habitant et par an.
On sait que la France est le pays européen qui importe le plus de tourteaux de soja provenant d'Amérique latine.
Ça, c'est faux. Justement, la France, elle, n'est pas aussi dépendante des tourteaux de soja parce qu'elle a une forte production de colza et de tournesol. On peut parler de ce point-là, d'ailleurs. Pourquoi elle a une forte production de colza et de tourteaux de colza? C'est pour le biodiesel. Le biodiesel est devenu quelque chose d'extrêmement important en France en particulier. Nous avons un territoire agricole et on a développé la production de colza et la production de tournesol pour faire du biodiesel. Et la contrepartie, ou le coproduit de l'huile et du biodiesel, c'est le tourteau. Donc ça nous a permis d'améliorer notre taux d'autosuffisance en matière d'aliments du bétail. Donc la France est beaucoup mieux placée que le reste des pays européens grâce aux coproduits du biodiesel.
Mais est-ce que notre pays est l'un des plus grands consommateurs de viande dans l'Union européenne?
Non,
ou pas?
Non.
Quel est le pays le plus grand consommateur?
En fait, la moyenne est au niveau à peu près de la France, quantitativement. Le pays qui consomme le moins de viande dans la nouvelle Union européenne à 27, c'est la Lettonie, mais qui est à presque 60 kg de viande par habitant et par an. Et celui qui en consomme le plus, c'est l'Espagne, avec près de 120 kilos par habitant et par an. Et la France, elle, est aux environs de 90.
Combien faut-il en moyenne de protéines végétales pour réaliser une protéine animale? Est-ce que vous le savez?
Alors, les taux de conversion pour la volaille, c'est de l'ordre de 2 d'aliments pour 1 de viande. Pour le porc, c'est 3 d'aliments pour 1 de viande. Voilà. Donc, l'animal est un transformateur, somme toute pas très efficace, puisqu'elle transforme 3 kg d'aliments en 1 kg de viande, grossièrement.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour diminuer cette production de tourteaux de soja destinée au bétail? Vous m'avez parlé du colza?
Oui. Alors, les grandes alternatives de l'Union européenne, qui sont possibles dans l'Union européenne, c'est les tourteaux oléagineux, pas forcément le soja, parce que le soja n'est pas finalement très bien à sa place en Union européenne, encore que en Roumanie, par exemple, il a une forte présence, en Italie plus qu'en France. Mais on a les tourteaux d'oléagineux que vous connaissez dans nos campagnes, colza et tournesol, qui, eux, donnent des tourteaux et qui remplacent, mais assez largement, puisqu'on est à peu près à 50% d'autosuffisance en France en matière de matières riches en protéines pour l'alimentation de notre bétail. Donc, on a développé cette alternative par l'agriculture française et également par le développement du biodiesel.
Au niveau européen également?
Au niveau européen, à moindre titre, parce que la France est un producteur agricole très puissant. Vous savez que la production française est plus agricole que notamment l'Allemagne en particulier. Mais la France est particulièrement, parce qu'elle a développé ses ressources alternatives, qui ne sont pas alternatives, qui sont des ressources premières d'ailleurs, historiquement.
Alors revenons à l'Amérique latine. Le soja a été présenté dans un premier temps comme un miracle économique. Pourtant, on l'accuse aujourd'hui d'être l'un des principaux responsables de la déforestation amazonienne, plus particulièrement dans la région du Mato Grosso. Alors que compte faire le gouvernement brésilien pour lutter contre ce fléau?
Alors d'abord, le soja est une grande richesse pour le Brésil, c'est exact, puisque c'est devenu le principal pourvoyeur de l'Union européenne en matière de tourteaux de soja en remplacement des États-Unis, qui eux-mêmes, historiquement, étaient les premiers pourvoyeurs. Le Brésil et, bien qu'à un moindre titre, l'Argentine. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est un amalgame qui est souvent fait, le soja n'est un faible responsable de la déforestation. J'ai fait le point à votre endroit. Sur 100% de soja produit au Brésil, il y en a 90% qui sont produits en dehors du bassin de la forêt amazonienne. Bassin compris au sens large, c'est-à-dire ce qu'on appelle le biome forêt amazonienne. Il y en a 90% qui sont produits en dehors. Reste quand même les 10%, qui quand même correspondent à des quantités importantes. Et là, il y a trois points. Le premier point, c'est qu'il y a une réglementation environnementale sur ce sujet de plus en plus important au Brésil, puisque dans le biome amazonien, on a le droit aujourd'hui de n'exploiter que 20% du territoire que l'on possède sous forme d'agriculture et de laisser 80% de la végétation native. Ça, c'est le premier point. Le point qui a souvent été reproché au gouvernement brésilien, c'est que finalement, c'était notamment dans l'espace amazonien, c'était la jungle dans tous les sens du terme, puisque c'était des malversations, de l'illégalité, etc. Et maintenant, le Brésil a une police forestière qui, de plus en plus, fait respecter le droit. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cet élément l'image du soja responsable de la déforestation amazonienne gêne non seulement l'image du Brésil, mais gêne les industriels qui font cette activité économique, et notamment les grands, ce qu'on appelle les grands traders, Cargill, Binge, etc., qui commercialisent, qui achètent et commercialisent ces quantités. Et ces grandes compagnies qui sont responsables de la grande majorité de l'achat du soja viennent de passer un accord avec les organisations non gouvernementales, en particulier Greenpeace, pour interdire à leurs membres d'acheter du soja produit dans des conditions illégales dans le biome de l'Amazon. Ça, c'est quelque chose de récent. Parce qu'ils n'ont pas...
Qu'est-ce que vous appelez par illégal ?
Eh bien, c'est quand on défriche en Amazonie sans le respect des règles édictées par le gouvernement fédéral. Et malheureusement, ça existe un peu. Mais maintenant, ces gens-là, producteurs de soja, ne peuvent plus, s'ils ne peuvent pas prouver qu'ils ont défriché avec des titres de propriété et dans des proportions de 20% seulement d'exploitation de ce qui a été défriché, ils ne peuvent plus vendre aux grands marchands de commerce international du soja. Ils ne peuvent plus.
Donc c'est tout récent.
Oui. Oui, vous trouvez ça sur Internet parce que les grands marchands ont voulu se protéger de cette image qui est désastreuse pour eux et pour le pays.
Est-ce que vous savez exactement combien d'hectares ça représente au niveau de la culture de tourteaux de soja en Amérique latine et de l'ordre de combien à peu près ?
De l'ordre de probablement 40-45 millions d'hectares. Et le Brésil produit 60 millions de tonnes de graines de soja. Une graine de soja donne 80% de tourteaux, hein, pour faire court. Donc, au Brésil en particulier, 60 millions de tonnes produites sur environ 20 millions d'hectares.
Alors, est-ce que l'Amérique latine exporte plus aux États-Unis ou en Europe ?
Alors, c'est une bonne question parce que les États-Unis s'auto-approvisionnent complètement. Le premier pays producteur de soja, c'est les États-Unis d'Amérique. Et eux sont complètement autosuffisants en matière de tourteaux de soja. Donc, il est hors de question pour le Brésil d'exporter sur les États-Unis qui sont parfaitement approvisionnés par leur propre culture. Donc, le débouché pour le Brésil et l'Argentine, c'est l'Union européenne et la Chine. Parce que la Chine consomme et achète beaucoup de tourteaux de soja également. Souvenez-vous des 60 kilos en moyenne de viande consommée par les Chinois. Et eux aussi sollicitent le marché international pour acheter des compléments protéines pour ces animaux d'élevage.
Alors, le tourteau de soja que produit les États-Unis est-elle également destinée au bétail ?
Oui, la réponse est simple, oui. En très très large majorité, parce que la partie qui va en alimentation humaine est une infime partie. Une infime partie.
Si l'on réduit l'importation de tourteaux de soja, est-ce qu'on ne va pas mettre en péril le travail des producteurs locaux en Amérique latine ?
Je prendrais l'affirmation dans l'autre sens. Si il y a production, c'est parce qu'il y a marché. S'il n'y a pas marché, s'il n'y a pas d'acheteurs internationaux, il n'y a pas de production. Et les producteurs locaux feront autre chose. Ils feront notamment du sucre, puisque c'est une des autres grandes productions, ou des céréales. Mais ce qui est caractéristique dans le cas du soja, c'est que dans le milieu, notamment dans le centre du Brésil, ce qu'on appelle les cerrados, autour de Brasilia, pour faire simple, le soja est extrêmement performant. Le soja brésilien fait des rendements tout à fait équivalents au soja des grandes plaines américaines. Donc, c'est une culture efficace. Et quelque chose qui est peu connu, c'est que le soja est une légumineuse, vous l'avez dit au début de l'émission. C'est-à-dire qu'elle n'utilise pas d'engrais azotés. C'est-à-dire qu'il ne sollicite pas de ressources énergétiques fossiles pour sa fertilisation. Alors que la difficulté dans la majeure partie des cultures alternatives, y compris nos cultures à nous, c'est qu'on est obligé d'appliquer des engrais fertilisants azotés qui, eux, ont besoin d'énergie fossile pour être produite. Le soja, c'est zéro. Donc ça, c'est peu connu. Alors, il y a aussi une autre question. On parle bien sûr des risques éventuels alimentaires du soja OGM. Vous savez qu'il y a beaucoup de travaux et il faut les laisser se développer, les travaux sur les risques éventuels des plantes aux OGM. Mais aussi, on parle de risques sur l'environnement. Or, le soja a une caractéristique extrêmement curieuse, c'est qu'il ne laisse aucun grain de pollen dans l'environnement. C'est-à-dire que l'un des risques sur l'environnement des plantes d'OGM, c'est que quand on a transformé le génome, le patrimoine génétique par transgénèse d'une plante, il y a un risque de voir ces gènes étrangers, entre guillemets, partir dans l'environnement et perturber cet environnement. Le soja, c'est zéro émission de pollen. C'est peu connu. C'est une fleur fermée, une fleur qu'on appelle cléistogame pour les botaniques. Donc ça, c'est un facteur de sécurité. Facteur de sécurité qu'on aimerait bien, d'ailleurs, pouvoir utiliser pour d'autres espèces qui sont transformées génétiquement, mais dont on aimerait bien qu'elles ne relarguent pas du pollen modifié, entre guillemets, dans l'environnement.
Alors, le soja est consommé depuis très longtemps en Asie. Comment savoir si celui que nous consommons, ou qui est vendu en grande surface, n'est pas le même destiné au bétail ?
C'est le même.
C'est exactement le même.
Mais c'est le même, exactement. C'est-à-dire
donc
les
la seule différence, c'est que l'un est OGM et l'autre ne l'est pas.
Non, même pas, puisque pour les aliments du bétail, pour nourrir les animaux, on utilise indifféremment, on l'a fait durant des décennies, indifféremment du soja transformé ou du soja non transformé. La transformation ne touche pas à la qualité de la graine, c'est la même, c'est des protéines d'excellente qualité. Donc, transformé OGM ou non transformé, c'est la même composition de protéines. Et là-dessus, les industries, notamment de l'alimentation humaine, prélèvent une partie du soja pour lui faire subir des procédés de purification destinés à l'alimentation humaine. Ce que les Chinois font depuis des millénaires.
Donc la production qui est faite par les agriculteurs locaux est-elle dangereuse pour leur santé ?
Non, aucun travail scientifique connu à ce jour, ne révèle de risques pour les travailleurs locaux qui cultivent du soja OGM. Les risques éventuels qui font l'objet de vérifications extrêmement précises, c'est le risque alimentaire. Mais là, il y a une procédure en Union européenne pour agréer toute nouvelle variété de soja en termes de qualité de ses protéines pour ne pas générer un risque d'alimentation. Et d'autre part, le deuxième risque qui fait l'objet de vérification, c'est le risque de relargage de pollen dans le milieu pour transformer ce milieu. Et on a vu que le soja ne relargue pas de pollen.
Alors le soja produit en France, est-il OGM ou pas ?
Non, parce qu'il y a très peu de soja. Et les producteurs, un petit nombre de producteurs de soja et leurs organisations ont choisi de développer ce soja dans des filières courtes et des filières justement de soja non transformé pour valoriser cette qualité, puisque finalement, dans des filières courtes, on aime bien avoir affaire à des sojas produits sur le sol national et des sojas non OGM.
Alors, si l'on devait faire une cartographie du soja OGM, dans quel ordre devrait-on classifier les continents ou les pays cultivant du soja transgénique ?
Si vous le faites par grande masse, les trois grandes masses de production de soja OGM, c'est les États-Unis, le Brésil et l'Argentine dans cet ordre-là, et toutes sont à plus de 2/3 OGM. Les États-Unis sont presque à 100%, l'Argentine est presque à 100% et le Brésil doit être à 80%.
Eh bien, merci Émile Chenet d'être venu nous exposer vos analyses sur le soja. Je rappelle que vous pouvez bien évidemment télécharger gratuitement cette émission sur le site de Canal Academy. Et si les OGM vous intéressent, vous pouvez également retrouver d'autres émissions liées à ce sujet dans la rubrique « Développement durable ». Merci pour votre écoute et à bientôt pour l'émission « Éclairage ».